bonjour à toutes et à tous. Pour ce nouveau Vivre Ici, on va parler des actions culturelles de l'Entracte Café, qui nous propose à Nébian le vendredi 13 mars une soirée littéraire, lecture, rencontre et dédicace en présence de deux auteurs des éditions Au Diable Vauvert, Christophe Cibert et son univers post-apocalyptique, et Fabrice Capizzano, le poète des mots. Voilà, cette soirée se fera avec la complicité de Christelle Carl, libraire à l'espace d'un rêve. Et pour nous parler de cette soirée, nous recevons Laure Cipolla, programmatrice à l'Entracte Café et coprésidente de RPH Sud. Bonjour Laure.
Coprésidente de l'association Un petit tour vers la liberté, mais pas
un
de RPH.
Tour, exactement. Vas-y, tu es la présidente de nos cœurs. Merci. Non, donc c'est un plaisir de te retrouver dans les studios, Laure. Depuis quelques temps, l'actu de l'Entracte Café était mis sur pause. Et là, vous reprenez tranquillement donc la programmation culturelle.
Exactement. Donc on a continué malgré tout les vernissages, les expositions, mais pour des raisons de santé, j'ai dû réduire un peu la voilure sur la programmation de l'Entracte Café, et donc on n'a pas eu trop de concerts, de repas associatifs, de tout ça, mais les expositions se sont faites au rythme prévu. On en a une en cours, c'est l'exposition de Corinne Tizien, et qui elle-même fera un stage le 15 mars. D'aquarelle, vous pouvez encore vous inscrire. J'aurai toutes les coordonnées, tout est trouvable aussi sur le site de RPH. Un vernissage aussi courant mars, de Boris von Reichnitz sur un travail d'empreinte et de collage. Donc, on reprend doucement les activités en vivante, on va dire, avec cette rencontre d'auteurs, et on s'est dit que peut-être s'il y a du monde qui vient nous défiler un coup de main le vendredi soir, on pourra refaire quelques concerts avant l'été.
Ah oui, voilà, un lieu très accueillant, très charmant, encore une fois, c'est ce lieu de l'Entracte Café à Nébian, dans un écrin très joli.
Moyen-âgeux.
Moyen-âgeux, exactement. Et alors, qu'est-ce qui a motivé à cette soirée littéraire ?
Eh ben, c'est ces deux auteurs, l'un et l'autre de façon indépendante et aussi ensemble, parce qu'ils sont édités tous les deux au Diable Vauvert. Christophe Cibert, je l'ai découvert il y a un petit bout de temps, je crois que c'était en 2013, à la ZAL à Montpellier, la zone d'autonomie littéraire, où il y avait des lectures, une présence de micro-éditeurs, des lectures d'auteurs peu connus à l'époque. Et je débarquais là avec une copine, parce que j'étais pas du tout au courant, et j'étais scotchée par la lecture de Christophe Cibert, sa manière de lire, puis son texte aussi. Et avec les réseaux sociaux, j'ai suivi son travail. Et ce mec, c'est un fou de travail, il n'arrête pas. Et puis, il est hyper talentueux, donc forcément, ça a marché. Et donc là, il vient de publier un dernier roman, Une vie de saint. Donc voilà, et puis il est là en ce moment parce que ce garçon, il habite à Bucarest, donc c'est pas facile de pouvoir le rencontrer, mais il est en résidence à Frontignan en ce moment pour le FIRN, le Festival International du Roman Noir, et donc il y travaille, et donc je voulais profiter de cette présence pour le recevoir à l'Entracte Café.
Allez, qu'est-ce qui t'a touché particulièrement dans ces textes?
Qu'est-ce qui m'a touchée, c'est peut-être l'authenticité, quelque chose de très 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 âpre de la vie, et sans fioriture, et puis il y a quelque chose qui t'emmène, quoi. C'est, je sais pas, c'est le génie des auteurs, quoi. C'est quand t'es pris par le truc et t'es à fond dedans. Et après, en suivant ces lectures, alors c'est pas toujours des lectures qui te donnent le sourire, hein. On a du post-apocalyptique, post-soviétique, post-punk, trash gore. Mais ça montre aussi bien les travers de notre société dans ce qu'il y a de plus gore. Et je me rendais compte, là, il y a pas si longtemps, avec la, entre guillemets, découverte des dossiers d'Epstein, que la réalité dépasse un peu la fiction, quoi. C'est assez glauque, et finalement, il y a tout ça, en fait, dans les romans de Christophe Cibert. Mais il y a aussi je ne sais pas comment il arrive à faire cette magie, quelque chose d'humain qui ressort à chaque fois. Ses personnages les plus trash, les plus gore sont vraiment dégueulasses, mais on y trouve toujours des petites traces d'humanité, qui fait croire que bon, bah, y a peut-être une graine un jour qui va germer et qui va pousser avec une belle fleur, et puis le monde il sera différent.
Ah oui, il arrive à remettre
bizarrement, de façon c'est pas la manière avec laquelle tu t'y attendrais, mais ouais, il y a un peu de ça.
Oui, tu mettais dans ta présentation qu'il était dans la lignée de Roberto Bolano, Maurice Dantec ou Antoine Volodine également, quoi. Dans l'idée de l'esprit.
Dans l'idée, ouais, dans le roman historique, dans le polar. Alors, c'est présenté comme une uchronie, pas vraiment ni une utopie, ni une dystopie, c'est une uchronie. Ça parle d'un pays, enfin, il a inventé un pays coincé entre les différentes républiques ex-soviétiques et tout ce que ça comporte de problèmes politiques après l'écroulement du bloc soviétique et de corruption, de dégueulasserie politique. Et c'est un vrai monde, en fait. Hein. Il a vraiment créé une page Wikipédia sur Mervedgorod. Il y a toute une trame, des personnages, on peut les retrouver. Il a créé un monde, un univers entier autour de ça. Et là, c'est le dernier roman qu'on parle. Il y a plusieurs autres romans. Il a commencé avec les chroniques de Mervedgorod. Ensuite, qu'est-ce qui est alors de souvenirs, il y a Valentina, Volna, Féminicide. Et la particularité, c'est que tous ces romans, on peut les lire en fait les uns après les autres. On peut ne pas tous les lire et on comprend en fait, on n'est pas perdu dans l'histoire. Wow. C'est ça aussi qui est assez génial.
Ah oui, d'accord, il prend vraiment, c'est vraiment son toile de fond, cette ville imaginaire, ouais. Pour mettre en scène toutes les dingueries politiques, etc., que nous connaissons.
Avec une chronologie existante, enfin voilà, il y a vraiment, il y a quasiment une historiographie du pays, des acteurs, des acteurs politiques, des acteurs dits culturels, enfin c'est fou quoi.
Et pour la lecture, donc, il sera armé de salopes frontales.
De salopes frontales, parce qu'il lit quasi dans le noir. Il projette des images qu'il a créées avec un ami à lui qui... voilà, des images inventées, de ce pays inventé dans lequel on a l'impression d'y être. Quoi. C'est, donc voilà, ça nous met dans une ambiance. On est bien.
Voilà, c'est parti. Parler de la beauté du monde. Ouais. Plusieurs... Ah, excellent. Donc encore une fois, je répète, ça c'est le vendredi 13 mars et suite à cette lecture, il y en aura une deuxième en effet.
Oui, c'est une lecture d'un texte de Fabrice Capizzano, qui est un auteur édité aussi au Diable Vauvert et qui sera faite par le comédien Aymeric O'Cornès, accompagné du contrebassiste David Chaussé.
Alors qu'est-ce que nous réserve cette lecture ? Alors là, ça a l'air de basculer dans un autre univers.
C'est un autre univers, c'est un autre univers. Alors Fabrice Capitano, c'est un auteur publié sur le tard. C'est pas un auteur sur le tard, mais parce que finalement, en fait, il écrit depuis quasi les bancs du lycée, mais sans lecteur potentiel. Enfin, il dit que parce qu'il se cache de tout lecteur, parce que la lecture, c'est pas son monde, en fait, à la base. Fabrice, il la découvre à 16 ans, il dit, avec le film 37.2 le matin. Donc il découvre le film, ensuite on lui dit mais c'est un livre, il lit le livre et en fait il est passionné, il commence à voilà, tout dévorer et il se met à écrire, mais alors voilà, un petit peu caché, un petit peu dans son coin. Et c'est bien plus tard, après avoir fait 1000 métiers, dont celui d'apiculteur, qui va au bout de l'aventure, qu'il écrit La fille du chasse-neige, qui sera publié au Diable Vauvert et qui se lance dans cette carrière d'écrivain.
Wow.
Et Fabrice Capizzano, lui, il revendique fièrement ses origines de prolo, du monde ouvrier.
Ouais.
Et moi, je trouve qu'il parle avec tendresse de cette ville qui est faite un peu d'efforts, de réconfort simple. Et cette tendresse et cette âpreté de la vie, moi, je trouve qu'on la ressent vachement dans ses romans. Et je dirais même qu'on retrouve aussi un peu la sensibilité d'un homme à qui on n'a pas trop permis d'exprimer ça auparavant. Ça, c'est moi qui le dis, mais je connais un peu le monde d'ouvrier, je suis un peu de là aussi. Et je me rends bien compte que quand on est un garçon, qu'on évolue là, et qu'on est un peu sensible, et qu'on veut exprimer quelque chose, qu'on ressent son mal-être, ses désirs, ses frustrations, bah, y a pas la place.
Ok.
On n'a pas appris ça aux garçons quand j'ai grandi dans ce monde-là. Et alors, pour Capitano, peut-être qu'au sein de sa famille, c'était différent, parce que j'ai entendu parler de ses photos aussi. Il faisait des photos. Et avec son tout premier appareil photo, là, il dit que c'était un Ricoh 500 ST et que son père admirait ses photos. Donc, peut-être une porte ouverte, justement, sur l'expression de l'esthétique, la sensibilité. Mais en tout état de cause, de façon générale, c'est un monde rude où les émotions, voilà, c'est pas ce qu'on met en valeur, en tout cas à l'époque. Et avec la lecture d'Emeric O'Cornes, je trouve que l'écriture de Capizano, elle prend toute son intensité. C'est une écriture qui est faite de poésie. Alors poésie parce que poésie dans la narration, mais aussi poésie dans les mots. Il manie la langue vraiment avec... seuls les poètes savent le faire.
Oui, c'est fou. Et Emeric, il manie l'art du clown, de ce que je comprends.
Alors, il ne manie pas l'art du clown, mais moi, je l'ai vu comme ça. Quand j'ai vu sa lecture, en fait, c'est ça qui m'a donné envie de faire rencontrer Christophe Sieber et Fabrice Capitano. Quand j'ai vu la lecture d'Emeric, j'ai dit, mais en fait, avec le duo qu'il forme avec son contrebassiste David Chaussé, on dirait deux clowns, en fait, un peu traditionnels ou... Il y a lui jouerait un peu le clown blanc, un peu autoritaire, parce qu'il faut, il est en colère, parce que le personnage qu'il joue, il est triste et il est aussi par moment il est triste aussi. Et il y aurait Auguste à la contrebasse, un peu timide et mais qui est lui plus présent, qui absorbe la tristesse pour mieux aussi nous la renvoyer avec des rires, comme ça se passe dans un cirque, en fait, sauf que là ils sont pas maquillés, ils sont pas en cirque, mais on sent un petit peu, là je l'ai vu comme ça en tout cas.
Ah oui, donc il y a quand même aussi du rythme, de l'enjeu, ça s'envoie des choses à la figure aussi un peu.
Ah ouais, vraiment, ouais, moi je trouve que c'est... il met le texte en voix, mais il a su le mettre en scène et pour faire vraiment ressortir le meilleur du texte. Et c'est un peu c'est le projet qu'il a en ce moment. Il choisit des textes d'auteurs ou d'autrices. Bon, en vrai, pour l'instant, je crois que c'est que des auteurs, mais évidemment, il va bientôt choisir une autrice... S'il m'entend, il sait qu'il faudra le faire. Et il choisit de jouer ce texte avec un ou une musicienne. Et donc, c'est des morceaux choisis de chacun des ouvrages. J'ai pas eu la chance de voir les autres présentations, mais là, pour le texte de Capitano, il dévoile pas l'intrigue. Voilà, mais par contre, il se saisit vraiment du texte. Il y a des morceaux choisis, il y a une mise en scène qui met. J'ai trouvé ça assez brillant.
Classe. D'accord, donc eux-mêmes et aussi un auteur auquel tu étais familier, ce Fabrice.
Mais non, moi j'ai découvert le texte à ce moment-là et je me suis dit, mais c'est génial, j'ai pris le livre tout de suite, je l'ai lu d'une traite. Non, j'ai trouvé ça super, d'autant plus que j'essaye de lire moins d'auteurs hommes pour rééquilibrer un petit peu ma bibliothèque avec les autrices. Mais bon, là, j'ai un peu craqué. Je me dis, allez, de temps en temps, ça ne peut pas faire de mal non plus.
Et justement, oui, en parlant de lecture, donc ça, je rappelle aussi cette soirée littéraire. Donc, les deux auteurs seront présents, c'est bien ça,
Nébion? Les deux auteurs seront présents, oui.
Je profite justement que tu sois là. Tu avais déjà fait aussi des interviews justement d'auteurs qui étaient aussi des auteurs militantes, des auteurs engagés, auteurs œufs. Où est-ce que tu en es aussi de tes lectures en ce moment?
Alors, de mes lectures, attends, faut que je fasse rayer ma mémoire. J'ai lu des textes passionnants. J'ai lu Lakota Woman. C'est le livre d'une femme Sioux qui raconte sa vraie vie de vraie femme. Sioux, sachant que Sioux, c'est un mot qui a été donné par les colons anglais, c'est pas le vrai mot des natifs américains, et qui a vécu aux États-Unis dans les années 70. C'est assez glaçant. Et en parallèle, j'ai lu le recueil de textes 17 auteurs pour la Palestine, et j'ai lu l'un après l'autre. Et j'avoue que ça faisait un écho très troublant, en fait, en termes de capacité destructrice de l'humain. Et d'un génocide à l'autre, je me suis dit, on retrouve quand même beaucoup de choses en 300, 400 ans d'écart qui sont exactement les mêmes, quoi. La volonté d'éradiquer un peuple, de l'écraser, de le faire souffrir, de... c'était assez troublant, mais je les recommande chaudement. Franchement, c'est à lire, quoi.
Oui, comment l'impérialisme écrase tout sur son passage,
ouais.
Même des tragédies humaines, tragédies encore en cours.
Encore en cours, exactement.
Qui n'en finit pas de nous écœurer, de nous dégoûter. Oui, parce que voilà, les luttes, il n'y a pas de... Enfin voilà, il faut continuer la lutte. Aussi, je ressortais aussi du film Une histoire américaine de Warzine, là. Et pareil aussi, ça, voilà, on rappelle en effet qu'on ne veut pas toujours du bien.
Bah certains, non. Et puis je crois qu'il y a un peu un backlash un peu fort, c'est que ces gens qui ont le pouvoir, peut-être qu'ils sentent qu'il y a une faille et qu'ils s'accrochent encore plus dur parce que peut-être qu'ils sentent que peut-être ils vont le perdre bientôt. Ce que moi, en tout cas, j'espère, mais je suis sûre de ne pas être la seule. Et du coup, ils s'accrochent et il y a un peu fort là. Ça fait mal, surtout à certaines personnes qui sont les plus fragiles, évidemment.
Ah là 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 là. Et aussi, bah, on espère, il y a toujours aussi tes émissions qui sont disponibles en podcast.
Toujours en podcast, pour l'instant pas de nouvelle émission. Mais j'y pense déjà, donc c'est premier avancement. J'y pense, peut-être qu'avant la fin de l'année, avant le début de l'été, il y aura quelques nouvelles émissions, puisque l'année dernière, j'avais été faire quelques interviews, justement, d'autrices à la Comédie du Livre, sur un lieu aussi, l'École des Vivants, là j'en ai parlé aussi dans un autre Vivre ici. Et j'aimerais bien pouvoir mener jusqu'au bout ces émissions parce que ça me semblait important, mais c'est vrai que pas toujours l'énergie en ce moment, mais voilà, je me bats un petit peu contre le cancer et ça prend du temps, mais ça se fait. Et donc j'espère bien qu'en tout cas en septembre je serai de retour pour de nouvelles émissions.
Ah, on espère aussi, voilà, on se tient. De toute façon, la grille sera là. On a besoin aussi, d'incarner aussi ce combat de lutte, et d'être dans cette suite, voilà, pour dire que voilà, l'égalité pour toutes et tous.
Bordel, oui, c'est important.
Bordel de merde. Et je vais en profiter aussi pour les éditions Vauvert et saluer l'ami Bertrand, voilà, notre ami Bertrand National, qui m'avait filé des livres de Douglas Coupland, auteur américain. Voilà, j'adore les livres Génération X et La pire personne au monde, qui m'a fait mourir de rire, même si l'humour est un peu caustique. Mais voilà.
Oui, je pense que c'est un peu aussi l'idée du diable. Et je suis hyper contente, en fait, que ces deux auteurs soient édités là, parce que je crois qu'il y a une ligne directrice qui est importante chez cette éditrice, parce que c'est dirigé par une femme d'ailleurs, Marion Mazurik. Alors je dirais pas à tous, parce que j'ai pas été regarder tous les auteurs et toutes les autrices éditées là-bas, mais il y a une volonté de pas éditer que des personnes, des écrivains, des écrivaines parisiens, et de donner une voix aussi à des écrivains, des écrivaines d'ailleurs, avec une vision du monde qui est un petit peu moins lissée que d'autres, et qui ont peut-être pas moins de complaisance avec le monde justement dans lequel on vit, qui sont plus engagés dans des luttes. Et je trouve que c'est important qu'il y ait des maisons d'édition qui prennent le parti de publier, voilà, des auteurs, des autrices comme ça. Et ça, c'est une question que je poserai aux auteurs, parce qu'on va avoir une petite rencontre entre les deux lectures au moment de cette soirée littéraire à l'Entracte Café. Je voudrais comprendre quelle admiration ont chacun des auteurs et des autrices pour leur éditrice Marion Mazurik, parce qu'à chaque fois que je lis ou que je regarde une interview d'un auteur ou d'une autrice publiée par les Diables Verts, à chaque fois elle me dit, et je vois un amour inconditionnel à Marion Mazurik, cette éditrice. Donc voilà, je voudrais quand même leur poser une question. Je pense qu'elle fait son boulot de façon exceptionnelle, mais j'aimerais comprendre pourquoi.
Elle a l'air d'avoir un très beau livre, en tout cas aussi les éditions Vauvert. C'est tout un écran aussi dans le Gard, voilà. Enfin, à côté de Vauvert, ça a l'air pas mal du tout.
C'est assez particulier, hein, le lieu des éditions Vauvert. C'est dans la plaine camarguaise, là-bas, chez nos amis gardois. Mais c'est un peu paumé. C'est une ancienne école où il n'y a plus d'enfants autour, donc l'école fait plus école. Mais voilà, il y a deux, trois maisons autour. Sinon, il y a vraiment la plaine camarguaise. c'est très particulier comme endroit.
Ouais, complètement, hein, la plaine, les chevaux, les flamants roses, etc.
Ouais, le vent.
Et puis les traditions, oh là 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 là. T'avais d'autres livres aussi, des éditions Vauvert, peut-être que tu voudrais conseiller aussi
J'aime beaucoup l'auteur Thomas Gunzik, qui a écrit Rocky Dernier Rivage, Rocky sur le rivage, j'ai plus le titre exact, mais ouais, c'est aussi un truc sur un peu post-apocalyptique. Au-delà de ce roman, j'ai plus le début du titre, mais à l'usage des incapables, quelque chose comme ça. C'est un auteur qui manie très bien aussi l'ironie de notre époque et avec aussi beaucoup de tendresse, un peu de mélancolie, une capacité justement à mettre, à parler un peu des sentiments un peu moins waouh et tout, la fragilité, la faiblesse, la culpabilité, ces choses qu'on met pas toujours en avant mais qui sont en chacun de nous et qui nous empêchent un peu des fois d'avancer. Et aussi Morgane Cossarieux, que j'ai découvert l'année dernière, Morgane Cossarieux qui écrit des livres d'horreur. Donc elle en a fait un sur la vouivre. Et cet animal un peu mythologique, mi-serpent, mi-monstre, qui est super. Et du coup, elle avait toute une série comme ça avec le mythe du loup-garou, le mythe du vampire. C'est génial, c'est magnifiquement écrit. Je trouve qu'elle a une écriture vraiment, je sais pas, c'est léché, c'est beau. En plus, elle illustre ses bouquins, c'est elle-même qui fait les dessins, c'est super beau. Donc voilà, c'est aux éditions Vauvert, c'est les deux qui me viennent en tête là pour l'instant.
Oui, édition aussi qui a édité aussi certains Bukowski, donc ça c'est sympa pour rentrer aussi, pour rester dans cette ambiance.
Voilà, on a la thématique un peu.
Et j'ai oublié de préciser qu'il y aura un repas, bien sûr, partagé lors de cette soirée du vendredi 13 mars, de cette soirée littéraire à l'Entracte Café.
Oui, alors pas repas partagé, il y a un repas proposé.
Ah, proposé, excusez-moi, oui, vous pourrez.
Proposé, je me mets au cuisine et du coup, pour rassembler les deux univers, je vais proposer un goulash au miel.
Alors qu'est-ce que c'est le goulash?
Le goulash, je crois que c'est un plat traditionnel des pays de l'Est, alors je crois que chaque pays a un petit peu sa manière de faire, les Russes font pas pareil que les Bulgares qui font pas pareil que le pays d'à côté, mais bon, j'ai trouvé une recette grosso modo qui mixe les autres, et au miel parce que on n'a même pas cité le roman qui sera lu, une salamandre à l'oreille. Elle parle de ce personnage Samuel Page qui est apiculteur.
Ah, d'accord, ok.
Voilà. Et donc, goulash au miel, sur réservation, n'hésitez pas à appeler au 06 25 01 32 92 pour réserver le repas, parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, j'en ferai pas 72. Et je précise, par SMS vraiment, si vous allez sur Facebook, sur le Facebook de l'asso, s'il vous plaît, n'envoyez pas de Messenger, je n'ai pas le temps de les lire, c'est pas possible. Merci.
Merci, voilà. On repasse par le téléphone en direct, vous envoyez un petit message, ça va. Voilà. Et on remettra aussi le téléphone, bien sûr, sur la page internet d'rphfm.org. Voilà, vous aurez à taper Vivre ici, Entracte Café, vous retrouverez très facilement le podcast. Que rajouter là ?
Je veux rajouter que cette même journée, dans les jardins, il y a la bibliothèque. Il y aura aussi une journée consacrée aux violences faites aux femmes. Enfin, pas consacré aux violences, mais contre les violences faites aux femmes, avec la bibliothèque et l'association Terre Contact de Clermont-Lérault. Il y aura un atelier d'art plastique qui sera proposé pour travailler justement sur les images du sexisme et qui sera proposé par moi-même. C'est moi qui ferai l'atelier d'art plastique. Et ensuite, il y aura une rencontre, discussion autour de cette thématique, des livres qui seront proposés par la bibliothèque. Et ça se terminera par un petit apéro gourmand. Et ensuite, on pourra doucement glisser vers la soirée littéraire, l'entracte du coup sera ouvert et voilà, ce sera une journée complète.
Ah, excellent. Est-ce que tu as déjà des intervenants aussi de Terre Contact, des noms ou...
Je suis en contact là avec Marie Laloum.
Oui, Marie Laloum, voilà. Pour celui, bien sûr, que, oui. Que nos auditrices, auditeurs connaissent bien.
Évidemment. Et donc voilà, c'est en collaboration avec Marie. On vous propose, on vous concocte ça. Et ça sera, voilà, ça sera dès 14h à la bibliothèque Donnez Bien.
Voilà, informer, sensibiliser, sortir des grandes villes et aller poser cette question, bien sûr, dans les petites communes.
Exactement, c'est important aussi.
Ça, c'est clair. Ah ben, ça va être une bonne journée ce vendredi 13 mars.
Ça va être une bonne journée.
Voilà, et puis après, bien sûr, on salue aussi toute l'équipe du Rock'n Soup.
Ah oui, le Rock'n Soup.
J'en profite aussi parce que tu fais partie de multiples associations.
Oui, c'est vrai que je suis présidente de la Sauce Saint-Paul. Et effectivement, le Rock'n Soup, il arrive très bientôt. On a fait un super week-end dernier pour la Gratiferia à Baletti. Ça s'est super bien passé. Et donc, on donne rendez-vous à tout le monde le 11 avril sur le parvis de l'église Clermont-Lérault pour le Rock'n Soup avec les Tanneurs du Drac, Sophie les Bas-Bleus et... N Botanics en première partie.
Oui, voilà, et puis on vous le rappellera aussi dans une autre émission, voilà, ouais. Que vous soyez bien au courant, le Rock'n Soup, c'est cool, soutenez la culture rock à Clermont-Lérault. Voilà, on mettra toutes les infos encore une fois sur le site rphfm.org et voilà, une belle plongée, une belle rencontre littéraire qui s'annonce encore une fois.
Merci Sam pour la présence ici.
Et belle journée à tous nos auditrices et auditeurs sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Refugees up in here. Book a basement style on a John Peel show. Give you a little reggae, little R&B, a little hip hop. Tell them. Stevie Wonder style, you know how we do. Bust it.
Yeah.